Leroux. Vous êtes praticien hospitalier au CHU de Nantes en réanimation pédiatrique. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de l'évolution de la fin de vie en réanimation. Première question, quel est l'état des lieux du point de vue des soignants 7 ans après la loi Claeys-Leonetti sur la fin de vie en réanimation?
La loi Claeys-Leonetti de 2016 a été bénéfique à la fois pour les patients et les soignants de réanimation parce qu'elle a permis de clarifier la prise en charge des patients en situation d'obstination déraisonnable. Un des points clés de cette loi est la disposition relative à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Cette sédation est à la fois un droit pour le patient et un devoir pour le médecin. Vous pouvez d'ailleurs lire l'article de Jean-Philippe Rigaud et des membres de la commission d'éthique sur ce sujet paru dans MIR en 2021. Cependant, il faut rappeler que cette loi reste souvent trop méconnue des professionnels, des patients, des citoyens. Le rapport Falorni fin mars 2023 met en évidence un faible recours à cette sédation en dehors de la réanimation. Et même en réanimation, une étude récente de Mathieu Ledors montre que ces procédures restent perfectibles. Cette loi répond probablement à la majorité de nos problématiques en réanimation. Cette loi a aussi permis de pouvoir parler fin de vie et suivi post-décès avec les familles. Toutes les études faites par le groupe Famirea avec Elie Azoulay et Nancy Kentish-Barnes permettent d'améliorer l'ensemble de nos prises en charge.
Deuxième question, quels sont les enjeux essentiels à débattre pour les soignants en réanimation dans le contexte sociétal actuel?
Les soignants de réanimation possèdent l'expérience des situations de fin de vie avec à la fois la mise en place des démarches collégiales, la recherche de la volonté du patient, directe ou indirecte, les discussions quant à la proportionnalité des soins et à une éventuelle obstination déraisonnable, la mise en place des réunions collégiales, les limitations, les arrêts de traitement, la mise en place d'une sédation profonde et continue et l'accompagnement des proches et des soignants. Ils sont donc légitimes pour participer au débat sur la fin de vie. La réanimation ne sera probablement pas le lieu d'application d'une éventuelle loi sur le suicide assisté et l'euthanasie. Et d'ailleurs, les réanimateurs ne sont quasiment pas confrontés à des demandes d'aide active à mourir lors de la prise en charge aiguë des patients en réanimation. Les situations conflictuelles auxquelles les équipes de réanimation sont confrontées concernent essentiellement des refus d'arrêt de traitement de la part des proches dans des situations identifiées comme potentielles situations d'obstination déraisonnable. Cependant, comme on peut le voir dans la société, les avis des soignants de réanimation concernant une modification de la loi sont partagés. On assiste actuellement à une évolution sociétale avec d'un côté le souhait du bien mourir, mais de l'autre côté une croissance continue de la médecine avec des techniques de suppléance d'organes de plus en plus performantes et une offre de soins requérant des séjours en soins critiques chez des patients toujours plus fragiles de par leur âge ou leur comorbidité. Il est donc important de s'interroger sur le respect de l'autonomie des patients et sur les directives anticipées qui sont encore trop peu remplies. La considération de ces directives anticipées est essentielle, mais ne doit pas défausser le corps soignant de son jugement propre et du devoir de proportionnalité des soins et de l'absence d'obstination déraisonnable. Du côté des soignants, valoriser leur travail dans la prise en charge de la fin de vie, dans l'accompagnement des proches est indispensable. La prise en charge d'un patient mourant reste une prise en charge médicale à part entière et on doit en tirer une satisfaction personnelle et une satisfaction de groupe lorsqu'elle est bien conduite. Redonner du sens aux soins, notamment des plus vulnérables et des mourants dans un hôpital où les marqueurs de qualité se focalisent essentiellement sur l'efficience est probablement un des enjeux majeurs pour affronter la crise hospitalière actuelle. Il y a donc urgence à travailler sur la qualité de vie, spécifiquement en réanimation, dans une société où le besoin de trouver du sens dans son exercice se fait pressant. Ce travail est d'ailleurs en cours de réalisation grâce à une démarche initiée par la SRLF et devrait porter ses fruits dans les années à venir.
Troisième question, à quel changement, challenge, pourront faire face les soignants en réanimation au vu des résultats du débat national sur la fin de vie?
Je vous invite à lire l'édito de la commission d'éthique de la SRLF qui a été publié début 2023. Dans lequel nous avons relevé les points qui nous semblaient indispensables à aborder dans ce débat et dans lequel nous avons insisté sur l'impact potentiel qu'aurait dans nos services une évolution de la loi vers une aide active à mourir. Je vais vous en citer quelques éléments. On peut d'abord s'interroger sur la période agonique. Une période agonique serait-elle encore acceptable en cas d'une évolution de la loi? Ne faudrait-il pas accélérer la mort de ceux qui vont de toute façon mourir l'arrêt d'un traitement de suppléance vitale? On peut aussi s'interroger sur le regard que portera la société sur les patients souffrants, non demandeurs d'une aide active à mourir. Quel regard portera cette société? Quel regard porteront les soignants sur ces patients? Le risque n'est-il pas de considérer finalement que ceux qui souffrent l'ont choisi puisqu'ils avaient une autre possibilité et qu'ils doivent alors de facto assumer leur choix? Enfin, une dernière interrogation concerne le prélèvement d'organes selon la procédure dite de Maastricht 3, qui avait déjà soulevé de nombreuses questions d'éthique. Sur cet aspect particulier, on peut s'interroger d'une dérive utilitariste potentielle à l'encontre des patients demandeurs d'une aide active à mourir. La perspective du don n'est-elle pas susceptible d'influencer la demande d'aide active à mourir du patient? Est-ce que l'opportunité du prélèvement peut influer sur le positionnement médical? Et avec pour corollaire la question suivante qui est importante, si les patients demandeurs d'une aide active à mourir étaient éligibles à un prélèvement d'organes, devraient-ils être admis dans un service de réanimation pour réaliser ce prélèvement? Enfin, on peut s'interroger sur la place qu'auraient les réanimateurs en cas d'évolution de la loi vers une aide active à mourir. Si l'on disait tout à l'heure qu'ils seraient probablement peu confrontés à des demandes d'aide active à mourir chez des patients en situation aiguë, il faut savoir qu'il y a maintenant un développement du suivi post-réanimation avec les consultations post-réanimation ou le développement des unités de réhabilitation post-réanimation. Et ces lieux de suivi organisé par les réanimateurs pourrait représenter pour les patients l'opportunité d'exprimer une demande vers une aide active à mourir auprès des médecins à distance de leur séjour en réanimation. Je vous remercie de votre attention.
Merci, docteur Bénédicte Gaillard-Leroux, de nous avoir parlé de l'évolution de la fin de vie en réanimation, qui est un sujet intéressant et d'actualité.